Vous écoutez On lit pour vous.
Les zines, des discussions féministes bouillonnantes, un texte de Gabrielle Anquetil, paru le 10 avril 2025, dans la Gazette des femmes. La micro-édition, une révolution des pratiques. Zines, fanzines et zines, ces petits magazines, faits main de façon artisanale, contribue plus que jamais à la conversation féministe. En 2016, je suis devenue une zinester. Au sein d'un collectif cycloféministe, Les Dérailleuses, j'ai corrigé des textes, cousu des reliures en chambre à air de vélo et distribué des centaines de petits livrets dans toutes les librairies qui voulaient bien en prendre. Des tâches qui ont demandé un nombre incalculable d'heures de travail et la collaboration de tout un réseau d'alliés. De toute évidence, l'expérience ne m'avait pas déplu parce que l'année suivante, le second tome de notre zine Londonderry, du nom de la première femme à avoir fait le tour du monde à vélo, Annie Londonderry, Cohen Kopchowski, est sorti des presses. Les zines du collectif Les Dérailleuses s'inscrivent dans une tradition féministe bien établie. Ils sont un média alternatif de résistance aux normes, d'expression et d'affirmation, expliquait la professeure au département de sciences politiques de l'UQAM, Geneviève Pagé, dans un article paru en 2015. Et même si, aujourd'hui, une grande partie de la conversation s'est déplacée en ligne, un groupe d'irréductibles choisit toujours de transmettre ses idées sur le bon vieux papier. De la science-fiction à la réalité. Issue d'une tradition presque centenaire, les zines ont vu le jour grâce à des adeptes de science-fiction désireux de faire part de versions alternatives de leurs histoires préférées. C'était la naissance de la fiction de fans. Mais c'est dans les années 1970 que la scène prend son envol dans la foulée des mouvements punk aux États-Unis et en Angleterre. À l'origine, la pratique est surtout dominée par les hommes. Il faudra attendre les années 1990 et le mouvement Riot Grrrl pour que les femmes obtiennent enfin une place dans le milieu de la micro-édition. Depuis, les zines féministes jouent un rôle super important, estime Isabeau Legendre, chercheure postdoctorale à l'Université Concordia, dont les travaux portent sur le zine. Les Riot Girls sont l'un des premiers mouvements de masse associés au féminisme de troisième vague. Leurs idées voyageaient notamment de main en main à travers des zines. Au Québec, il faudra attendre 1999 pour que le premier chapitre Riot Girl soit fondé à Montréal. Les militantes lancent leur premier zine en 2000, contribuant à renverser la domination masculine du milieu. Aujourd'hui, cette domination a disparu, observe Isabeau Legendre. C'est un cas très clair de révolution profonde des pratiques et de la composition d'un milieu par un mouvement féministe qui visait spécifiquement à faire cette transformation. Parler de tout sans censure. Les zines sont un lieu où beaucoup d'idées féministes plus nichées ou controversées sont débattues, lance avec passion Jess Roy, membre de la coop Coup de griffe. En plus de produire des zines depuis plusieurs années, elle offre aussi régulièrement des ateliers d'introduction à la pratique de cet art. Faites-le vous-même, do it yourself, DIY. L'écriture est perçue comme étant prestigieuse, inaccessible. Mais non, tout le monde peut écrire. Les personnes qui découvrent les zines se rendent compte qu'elles n'ont pas à attendre qu'une maison d'édition les publie. qu'elles peuvent le faire elles-mêmes. Cette accessibilité absolue, suffit de mettre la main sur une photocopieuse, offre la possibilité à de nombreuses femmes de contribuer à une discussion de laquelle elles seraient autrement exclues. Il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition féministes au Québec, constate Isabeau Legendre. Leur marché est petit, donc elles ne peuvent pas se permettre d'aborder des enjeux super nichés. C'est pour ça que les idées queer sont apparues dans les zines en français au Québec avant de se rendre dans des publications comme celle de Remue-Ménage. Critique du capacitisme ou de la grossophobie, exploration de la fluidité du genre et des diversités sexuelles, le chercheur constate que ces idées ont germé dans des zines dès les années 1990 et ont longtemps mijoté avant d'atteindre un public plus large. Jess Roy se souvient pour sa part du chaos magnifique qui caractérisait les zines jouant avec l'écriture inclusive au début des années 2000. On utilisait des E majuscules, des parenthèses, des tirets, des points. C'était n'importe quoi. Mais grâce à cette expérimentation, on a fini par établir ce qui fonctionne. Aujourd'hui, c'est rendu au gouvernement. Cette accessibilité absolue offre la possibilité à de nombreuses femmes de contribuer à une discussion de laquelle elles seraient autrement exclues. De fait, les zines s'avèrent un terreau fertile pour discuter collectivement, parfois sous le couvert de l'anonymat, de questions souvent complexes. Dans son article, Geneviève Pagé observe que les questions relatives au corps ont une place prépondérante dans ses écrits et pas les plus légers. Violence sexuelle, physique, symbolique et monétaire, mais aussi les moyens d'y résister, ainsi que d'autres sujets touchant le corps, tels que l'identité, le plaisir et les émotions. Cofondatrice de la librairie « N'était-ce pas l'été ?», Mélanie Guillemette observe de son côté beaucoup de témoignages dans les livrets disponibles dans ses rayons. J'ai l'impression que c'est une manière de lancer des perches à d'autres personnes qui pourraient avoir des questionnements similaires, mais qui ne trouvent pas de réponse dans les livres plus classiques. Sa théorie rejoint Jess Roy, qui confirme que des zines sont parfois produits en réponse à d'autres publications. Un nouvel âge d'or. Les dernières années ont vu un regain d'intérêt pour cette méthode de diffusion des idées, notamment avec l'entrée des zines à la Grande Bibliothèque et au Salon du Livre de Montréal en 2023. Quand on parle aux jeunes pendant les matinées scolaires, raconte Mélanie Guillemette, qui a co-organisé l'espace Zine, notre stand est plein à craquer. Ça pogne du feu de Dieu. Jess Roy, qui collabore elle aussi à l'organisation, se réjouit de cet engouement. Quand j'étais plus jeune, je me disais, voyons donc, ça ne peut pas être juste ça, la société. J'ai cherché et j'ai trouvé des anarchistes, des punks, des queers. En allant au Salon du Livre, je me rends compte que je ne suis pas la seule comme ça. Pour Jess Roy, cette rencontre avec le public est au cœur de sa pratique de zinester. Les zines, c'est vraiment une pratique communautaire. Tout le monde peut embarquer dans la discussion. C'est réellement un média d'autonomisation. C'était Les zines, des discussions féministes bouillonnantes, un texte de Gabrielle Anquetil, paru le 10 avril 2025 dans la Gazette des femmes.
Connaissez-vous votre bagel? un texte d'Ève Dumas paru le 5 avril 2025 dans La Presse. Qu'est-ce qui fait un bagel? Est-ce la forme? Est-ce le fait d'être bouilli avant d'être cuit au four? Il n'y a pas de consensus. Voici les principales sortes. Le bagel de Montréal. Le bagel est un des symboles culinaires de Montréal. C'est au tournant du 20e siècle qu'il fait son apparition dans la métropole, amené par les immigrants juifs de Russie et de Pologne principalement. Isadore Schlafmann a fondé Fairmount Bagels en 1919, mais le commerce s'appelait à l'époque Montreal Bagel Bakery et se trouvait sur le boulevard Saint-Laurent. Saint-Viateur Bagel Shop a quant à lui vu le jour en 1957. Le bagel montréalais est roulé à la main, bouilli dans une eau infusée de miel, puis cuit au feu de bois. Astuce. Le meilleur ami du bagel est bien sûr le fromage à la crème. Il n'y a pas de mal à en acheter un contenant et à tremper directement le bagel chaud dedans. Le bagel de Jérusalem. Ce pain, aux origines arabes, s'appelle aussi un kak. Il existerait au moins depuis le Xe siècle. Serait-il aussi à l'origine du flagel des années 1990, flat bagel? Allez savoir. Si, à l'origine, le kak était bouilli avant d'être cuit au four, il ne l'est plus. Le goût et la texture ne s'en rapprochent pas moins du bagel montréalais, en moins sucré. Chez Bagel Fréna, il y en a aussi une impressionnante version oblongue, normalement offerte les vendredis seulement, tout comme la version géante qui nourrira toute une famille. Astuce. Jacob Needham, le fondateur de Bagel Fréna, suggère de réchauffer le bagel en entier et non ouvert en deux au grille-pain. Les siens sont assez minces pour ne pas y rester pris. Le bagel de New York. Ce sont les Juifs polonais qui ont amené le bagel à New York à la fin du 19e siècle. Au début du 20e siècle, il y avait tellement de fabricants de bagel dans le Lower East Side de Manhattan, des centaines de boutiques, qu'un syndicat a vu le jour en 1915. Aujourd'hui, le bagel new-yorkais n'est plus systématiquement roulé à la main. Il est bouilli dans une eau à laquelle on ajoute un sirop de malt, puis cuit dans un four traditionnel. Astuce. Typiquement, on ne fait pas griller le bagel new-yorkais. Certains affirment même que c'est une hérésie. Il faut le manger frais, seul, ou comme le propose B. Bagels, avec un assortiment de schmears. On déchire et on trempe. Les autres bagels. Né à Los Angeles, le néo-bagel ne se réclame ni de New York ni de Montréal. Il a la particularité d'être fait avec du levain plutôt qu'avec de la levure pour une fermentation dite naturelle. Il n'existe pas encore au Québec. L'obwarzanek polonais est un pain tressé en forme d'anneau qui est bouilli, parsemé de sel et de sésame ou de pavot, puis cuit au four. Certains clament que c'est lui l'ancêtre du bagel. Le girdenam des Ouïghours, peuple principalement musulman vivant en Chine, peut ressembler à un bagel new-yorkais, bien que son trou ait parfois un fond. On en trouve chez Urumqi Özgü, Uyghur Cuisine, La Salle. Les Turcs, eux, ont le délicieux simit, qui est tressé puis trempé dans une mélasse de raisin appelée pekmez et du sésame avant cuisson. On en trouve dans quelques boulangeries turques montréalaises comme Sisek, Fleury-Est, Éphèse, Parc Extension, et Antep Kounefe, Jean Talon Est. En Ukraine, le boublik est sur toutes les tables. Il peut être frais ou sec. Et ce ne sont que quelques exemples de pains qui s'apparentent au bagel. Pourquoi le bagel a-t-il un trou? Certains disent que c'était pour l'enfiler sur une corde ou l'empiler sur un bâton. D'autres affirment que c'est pour assurer une cuisson uniforme, étant donné la densité de la pâte à faible taux d'hydratation. C'était « Connaissez-vous votre bagel ?» un texte d'Ève Dumas paru le 5 avril 2025 dans La Presse.
Des coupes de Québec font fermer des organismes d'aide à l'emploi. Un texte de Lisa Marie Gervais paru le 16 avril 2025 dans Le Devoir. Québec réduit de plus de 7 millions de dollars ses subventions à plusieurs organismes communautaires offrant des programmes de réinsertion en emploi qui bénéficient à des clientèles vulnérables et à des jeunes. À Montréal, où l'opération de rationalisation est maintenant terminée, les coupes se révèlent particulièrement douloureuses pour le centre Inarrivé. L'organisme servant la communauté haïtienne depuis plus de 50 ans se demande comment il pourra survivre. On ne pourra pas absorber les coûts fixes. On est condamné à faire une réévaluation totale de notre organisme et à réduire notre portée, dit Ninette Piau. Au bout du fil, la directrice du centre Inarrivé, un mot créole prononcé Inarrivé, est encore sous le choc. « Je m'attendais à recevoir une lettre de renouvellement et on m'a annoncé tout le contraire. Ça m'a complètement déstabilisé, » dit-elle au Devoir. « C'est 50% de notre budget d'1 million qui vient de tomber. » Elle dit que tout s'est écroulé le 3 mars après une conversation téléphonique avec une directrice de Service Québec qui lui annonçait que la subvention de son programme préparatoire à l'emploi, PPE, ne serait pas renouvelée au-delà du mois de juin 2025. L'argent du PPE servait notamment à financer des ateliers pour réinsérer en emploi une quarantaine de personnes particulièrement vulnérables et plus éloignées du marché du travail, selon l'expression de Ninette Piau. Et on y parvenait, on atteignait nos cibles, dit-elle. Même son de cloche pour Carrefour Relance, l'organisme situé dans Hochelaga-Maisonneuve, qui existe également depuis 50 ans, aide les gens bénéficiant de l'aide sociale ou peu scolarisés à se trouver un emploi. Ayant appris que le gouvernement du Québec lui retirait son unique subvention, celle du PPE, il mettra la clé sous la porte au 30 juin 2025. Ce n'était pas un problème de performance, on dépassait nos objectifs, assure François Dallaire, le directeur général de cet organisme qui aide une soixantaine de personnes pendant 6 mois. Des humains, pas des numéros. Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale explique les coupes par les compressions budgétaires du gouvernement fédéral qui s'élèvent à 145 millions de dollars par année pour le Québec. Ces coupes ont considérablement réduit les marges de manœuvre financières accordées aux services publics d'emploi. Cela oblige le ministère à prendre des décisions difficiles, a indiqué une porte-parole. Le ministère a tenu à rappeler que d'autres alternatives sont disponibles pour les personnes vulnérables et éloignées du marché du travail qui recevaient des services auprès de ces organismes. Ce sont des humains, pas des numéros. Les personnes que nous aidons font aussi partie de la société, rappelle Ninette Piau. La directrice du centre Inarrivé n'est pas du même avis. Ces activités profitent à une population bien différente, parce que plus scolarisée, de celle qui fréquente les autres organismes de réinsertion en emploi de son territoire, dit-elle. Les personnes qui viennent chez nous, les autres organismes de réinsertion ne les acceptent pas, souligne-t-elle. Aux yeux de Mme Piau, les compressions du gouvernement répondent à une logique strictement comptable qui privilégie les personnes les plus aptes à intégrer rapidement le marché du travail. Ce sont des humains, pas des numéros. Les personnes que nous aidons font aussi partie de la société, dit-elle. Il semble qu'il y ait pour le gouvernement une catégorie de gens qui n'en vaut pas la peine. D'autres coupes pour les jeunes. Des coupes dans d'autres ententes de financement, les services d'aide à l'emploi, par exemple, ont également sévèrement touché des organismes œuvrant auprès des jeunes. C'est ainsi qu'Intégration Jeunesse du Québec, IJQ, un organisme qui existe depuis 45 ans, a appris début mars 2025 qu'il se voyait amputé de la majeure partie de son financement parce que, souligne-t-elle, le gouvernement souhaite recentrer ses budgets sur les carrefours jeunesse-emploi, CJE. La rencontre a duré 4 minutes et c'était essentiellement pour m'annoncer la fin des ententes de financement et la fermeture de mon organisme à 3 mois d'avis, a déploré Élodie Boisseau, directrice générale d'IJQ. Selon elle, le gouvernement a tort de délaisser son organisme au profit des CJE. On n'est pas un CJE, on est un organisme jeunesse qui offre quelque chose de complémentaire, dit-elle. Ninette Piou se dit déterminée à mener ce combat pour ces personnes, surtout des femmes, plus vulnérables. Elle craint qu'elle ne se retrouve isolée avec des problèmes encore plus graves, notamment de santé mentale. Si le gouvernement n'intervient pas pour nous permettre de continuer, ça va entraîner des coûts sociaux faramineux, insiste-t-elle. Financer des programmes pour ces personnes devrait être considéré comme un investissement. C'était « Des coupes de Québec font fermer des organismes d'aide à l'emploi », un texte de Lisa Marie Gervais paru le 16 avril 2025 dans Le Devoir.
Le Centre de prévention du suicide acquiert l'ancienne Pizzeria du Poste. Un texte de Jean-Baptiste Lévesque paru le 10 avril 2025 dans Le Charlevoisien. Le Centre de prévention du suicide de Charlevoix, CPSC, franchit une étape majeure de son développement avec l'acquisition d'un nouveau bâtiment situé au 448 rue Saint-Étienne, soit l'ancienne Pizzeria du Poste de la Malbaie. Ce projet s'inscrit dans une volonté d'optimiser les services offerts et de répondre à la croissance des besoins en prévention du suicide dans Charlevoix. Nous avons fait le choix d'investir dans un espace qui nous permettra d'offrir nos services dans un cadre plus confidentiel, accessible et accueillant, mais également d'élargir notre offre de formation et d'activités de sensibilisation. Ce nouveau lieu devient un levier important pour renforcer notre mission, affirme Marisol Côté, directrice générale du CPSC. Le bâtiment, qui nécessitera d'importants travaux de rénovation, sera transformé en centre spécialisé comprenant des bureaux d'intervention, une salle de formation multifonctionnelle et un espace de rencontre pour les groupes de soutien. Le déménagement est prévu pour l'automne 2025. Cette décision nous permettra de mieux répondre aux défis de la prévention du suicide et d'être encore plus présents pour ceux qui ont besoin de nous, ajoute Patrice Tremblay, président du conseil d'administration. Afin de concrétiser ce projet, le centre lance un appel à la solidarité. Si 1000 personnes nous offrent un petit 10 $, nous pourrons donner à ce lieu tout l'amour et les rénovations nécessaires pour en faire un havre d'écoute et de soutien pour notre communauté, indique-t-on dans un communiqué. C'était le Centre de prévention du suicide acquiert l'ancienne Pizzeria du Poste. Un texte de Jean-Baptiste Lévesque paru le 10 avril 2025, dans Le Charlevoisien.
La mémoire est une faculté qui oublie le temps. Un texte de l'agence Science Presse, paru le 30 mars 2025, dans l'express.ca. La répétition est certainement une bonne idée pour mieux se rappeler quelque chose. mais elle peut aussi avoir un effet inattendu, nous faire croire qu'un événement s'est produit il y a plus longtemps que dans la réalité. L'expérience qu'ont menée des psychologues de l'Université de Pennsylvanie part d'une prémisse bien connue dans les recherches sur le cerveau. Nos souvenirs d'événements passés ne sont pas datés, en ce sens que notre matière grise ne les classe pas par jour ou par semaine. Elle les classe en fonction d'un contexte, par exemple, avec quel ami nous nous trouvions, ou dans quel lieu, ou dans le cadre de quelle activité, ou quelle était notre humeur. Tromper notre perception du temps. Pour cette raison, bien des choses peuvent tromper notre perception du temps qui s'est écoulé. Par exemple, des recherches ont déjà affirmé que le simple fait de voir un nom plusieurs fois, l'effet de répétition, créerait en nous l'illusion que nous avons rencontré cette personne plus récemment que ce qu'il en est vraiment. Pour vérifier la chose, la nouvelle étude a consisté à montrer à différents participants 5 blocs de 50 images, à l'intérieur desquels certaines images étaient présentées une seule fois et d'autres entre 2 et 5 fois. On demandait ensuite aux participants de classer sur une ligne de temps à quel moment ils avaient vu pour la première fois telle ou telle image. Comme prévu, les participants avaient un meilleur souvenir des images vues plus d'une fois. Mais surtout, sur la ligne de temps, ils plaçaient effectivement plus tôt que dans la réalité la première apparition des images vues plus d'une fois. Et les images vues 5 fois étaient jugées comme étant apparues plus tôt que celles vues 2 fois. Mémoire manipulable. Concrètement, cela confirme que la mémoire est faillible, mais aussi qu'elle est manipulable. Dans les études sur la désinformation, il y a longtemps que l'effet de répétition est un facteur pris en compte. Une personne confrontée à une information bizarre aura tendance à la rejeter. En revanche, si elle la voit surgir 2 ou 3 fois, elle aura davantage tendance à croire que ça doit être vrai. Ce que cette étude ajoute, c'est la possibilité de créer l'illusion que l'information en question circule depuis plus longtemps que la personne ne l'imaginait, ce qui peut renforcer chez elle l'impression que ça doit être vrai. C'était « La mémoire est une faculté qui oublie le temps », un texte de l'agence Science Presse, paru le 30 mars 2025 dans l'express.ca.